ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagios, des allegros, des moderato et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec à la technique Arnaud. Arnaud qui n'arrête pas de râler, qui nous dit « Mais pourquoi on parle jamais de peinture ?» Bah, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de peinture parce que c'est une émission sur la musique. Il n'empêche que notre abécédaire est à la lettre P et que d'emblée, moi ça m'a donné envie de vous parler de Picasso. Alors, Picasso, personnage controversé aujourd'hui. Oui, Picasso n'était pas un homme très très fréquentable toujours. Son rapport aux femmes était pour le moins compliqué, voire déplacé. Il n'empêche, Picasso, homme de génie, et on peut encore aujourd'hui, sans avoir aucune honte, se permettre de s'extasier devant son travail. Alors pourquoi vous parlez de Picasso ? Parce que Picasso a eu quelque part une influence aussi sur la musique. Picasso, en 1916, a rencontré Serge de Diaghilev. Alors Diaghilev, c'est pas directement un musicien, c'était une sorte d'impresario, le directeur des ballets russes, donc un grand ballet qui diffuse sa musique. Il s'appelle Ballet Russe, mais ils sont plus russes spécialement. Hein. Ils sont basés entre Paris, Monte-Carlo et Londres, et ils montent beaucoup, beaucoup de spectacles avec des musiciens et des artistes qui, souvent d'ailleurs, ont fui la révolution russe. Et cette rencontre entre Diaghilev et Picasso, ça va permettre à Picasso d'ailleurs de rencontrer sa première femme, qui était danseuse au ballet russe, mais ça c'est accessoire. Ça va lui permettre aussi de rencontrer des musiciens avec lesquels il va travailler, par exemple Erik Satie, dans le projet Parade, dont je vous propose d'écouter les premières pages dans la version de Antal Doraty, qui dirige le Minneapolis Symphony Orchestra. Alors, quand on parle de l'histoire de Barat, je vous ai parlé de Picasso, je vous ai parlé de Diaghilev, je vous ai parlé un petit peu du compositeur Satie. En réalité, il y a un autre personnage qui est essentiel là-dedans, qui a vraiment permis cette rencontre artistique, qui en a été un acteur très moteur, c'est Jean Cocteau. Et nous avons cette chance de pouvoir avoir sur le plateau de Radio MDM Jean Cocteau, qui va vous parler tout de suite de Barat et de Satie.
J'ai pensé qu'il fallait, avec Satie, avoir Picasso. C'est alors que j'ai demandé à Picasso de collaborer avec nous. Je le lui ai demandé entre la rotonde et le dôme, au milieu de la rue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et il m'a dit, puisque nous allons faire un... Nous allions à Rome rejoindre Diaghilev. Puisque nous allons faire un voyage de noces, nous allons aller annoncer notre voyage de noces à Gertrude Stein. Nous avons été chez Gertrude Stein, rue de Fleurus, et nous lui avons dit, voilà, nous partons en voyage de noces. Nous avons été à Rome, et nous avons, aidés par les fistes, fait le ballet Parade. Mais Satie n'était pas avec nous. Satie avait fait ses études à la Scola Cantorum. Et il vivait parmi les impressionnistes, mais sa musique s'opposait à la musique impressionniste, parce que, au lieu d'être floue et frissonnante et en sourdine, sa musique était linéaire et sans sauce, sans voile, au point que quand les musiciens d'orchestre répétaient Parade, ils croyaient répéter de la musique de Bastringue. J'étais obligé d'aller chercher Ravel, d'amener Ravel, pour qu'il leur dise que cette musique était une manière de chef-d'œuvre. Et là, il s'est passé une chose très drôle. Un flûtiste s'est levé et a dit à Satie, « Monsieur Satie, il paraît que vous me trouvez idiot. » Et Satie répond, « Non, je ne vous trouve pas idiot. Maintenant, je peux me tromper.
» Barat n'est pas un ballet vraiment comme les autres. Il y a une vraie nouveauté là-dedans, et le rôle de Picasso y est essentiel. La grosse différence entre Barat et les autres ballets contemporains, c'est que la danse est presque au service des décors et des costumes. C'est la danse qui va illustrer ce qui est présent sur scène. Le mouvement est au service de l'art plastique. Les répétitions vont se dérouler en Italie, à Rome, puis à Naples. Picasso part avec eux, Cocteau nous le disait tout à l'heure. Et la création se fera en 17. Alors, c'est comme souvent à l'époque, c'est une création qui a fait un peu scandale. La musique a beaucoup dérouté, la chorégraphie aussi. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une des grandes pièces du répertoire. On en a écouté tout à l'heure le début. Je vous propose d'en écouter maintenant la fin. Thank you. On va rester avec Picasso, et toujours dans une collaboration avec Diaghilev. Deux ans plus tard, en 1919, Diaghilev demande à Picasso un travail sur un ballet espagnol qui serait composé cette fois par Manuel de Falla. Ce ballet, ça va être le Tricorne. Picasso s'occupe exclusivement, mais c'est déjà beaucoup, des costumes et des décors. Il est moins présent dans la conception générale du spectacle, où Diaghilev intervient un tout petit peu plus. Et l'univers va être plutôt celui de la Commedia dell'arte, mais version espagnole. Je propose d'écouter la fin de ce Tricorne de Manuel de Falla. On va écouter la danse du magistrat, suivie de la danse finale, qui est une rota. Et comme disait Raymond Devos, la rota, c'est ça. J'ai choisi une version d'un orchestre pas très très espagnol, l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par un chef qui n'est pas non plus très très espagnol, Ernest Hans Hermé, mais qui était un grand spécialiste de Manuel de Falla. Thank you. continue notre évocation de Picasso et de la musique, mais cette fois-ci sous un autre angle. On va avancer un petit peu dans le temps avec des compositeurs plus récents qui n'ont pas travaillé directement avec Picasso, mais qui ont été influencés par ses toiles. Une des toiles les plus célèbres de Picasso, c'est évidemment Guernica. Guernica qui évoque les bombardements de Guernica, une toile tout à fait étonnante qui n'est malheureusement pas au Pays Basque aujourd'hui, qui est encore dans un musée à Madrid. Peut-être qu'un jour, la toile de Picasso pourra revenir à Guernica, ce ne serait quand même que justice. Et Guernica a profondément influencé un compositeur allemand qui s'appelle Walter Stephens, qui est né en 1934 et qui a été très marqué, lui aussi, par ses idées de bombardement, puisqu'il a été séparé de ses parents, parce que l'Allemagne était très très bombardée à ce moment-là. Et ça va s'entendre, vous allez vous en rendre compte, ça va s'entendre dans cette musique qui évoque donc la toile de Guernica. C'est une sorte de concerto pour alto qui est donné là, et je vous propose donc d'écouter. Alors la pièce est longue, on ne pourra pas l'écouter intégralement, mais on va en écouter largement le début. Donc le début de ce Guernica opus 32, c'est interprété par Janos Kulka, qui dirige le Northwest German Philharmonic. On continue avec les compositeurs qui ont été influencés par des toiles de Picasso, ou pas forcément des toiles, aussi des sculptures. Il y a une pièce de Picasso qui s'appelle « Construction avec guitare », qui est un petit peu une toile en relief sur laquelle on voit une guitare qui a été collée complètement sur la construction. Et cette pièce a influencé un compositeur anglais qui s'appelle Ariston Burstwattle, un compositeur, il faut être honnête, qui n'est pas très connu, pourtant c'est quelqu'un qui a un rôle réel en Angleterre. En 75, il a été nommé directeur du National Theatre à Londres et il a été professeur de composition au King's College de Londres, toujours, entre 94 et 2001. Et donc, bien évidemment, puisque la toile fait référence à la guitare, lui, il a composé une pièce pour guitare qu'on écoute tout de suite. Le dernier compositeur contemporain influencé par Picasso n'est pas un compositeur, mais une compositrice. Il s'agit de Monica Pierce, qui est une compositrice canadienne. Sa grande originalité est une véritable passion pour les pianos joués. Entre 2008 et 2018, elle a composé à peu près 120 œuvres où il y a du piano joué. Et c'est le cas, par exemple, dans cette pièce-ci qui s'appelle « Girl Before a Mirror ». Donc c'est évidemment une référence à la toile de Picasso qui s'appelle « Femme devant le miroir » ou « Fille devant le miroir », je ne me souviens plus très bien, où on voit bien cette évolution dans le tableau. Il y a une jeune fille qui se regarde dans le miroir et le miroir la montre déjà quelques années plus tard, beaucoup plus fardée, beaucoup plus séductrice qu'elle ne l'est en réalité. Et donc, cette toile a inspiré Monica Pierce, qu'on écoute tout de suite dans cette pièce, Girl Before a Mirror. C'est interprété par le Arai Ensemble que dirige Rick Sachs. À la lettre P de notre abécédaire, il y avait aussi le mot psaume. Qu'est-ce que c'est qu'un psaume ? C'est une sorte de texte poétique, généralement composé de plusieurs versets, et écrit de façon assez lyrique. Souvent, on peut le penser destiné à être chanté, puisque le mot psaume vient du grec ancien psalmos, qui désigne un air joué sur le psaltérion. Bien évidemment, les psaumes, on en retrouve dans la Bible, ils sont souvent attribués au roi David. Bien évidemment, comme pour toujours, il y a beaucoup d'auteurs, en réalité, au texte de la Bible, et... Pour illustrer le mot psaume, alors évidemment, il y a plein de psaumes dans toute l'histoire de la musique, mais pour rester un peu en lien avec Picasso, j'ai choisi de vous faire entendre une pièce de Stravinsky. C'est vraiment le compositeur, l'exact contemporain de Picasso. Ils se sont connus, ils se sont appréciés. Puis Stravinsky a composé une symphonie de psaumes, qui était d'ailleurs une commande au départ, commande de l'orchestre de Boston. L'orchestre de Boston avait demandé d'ailleurs à Stravinsky de faire une pièce populaire. Je ne suis pas sûr que Stravinsky ait bien répondu à cette notion de populaire, mais en tout cas, il avait très envie de composer de la musique religieuse. Stravinsky avait, dans un premier temps, été athée, et puis il a eu une sorte, je ne vais pas dire de crise mystique, mais d'un vrai retour de la foi. Il est redevenu extrêmement pratiquant, et donc il avait très envie de mettre en musique des textes religieux, même si ça n'est pas destiné, évidemment, à un office. On écoute le premier mouvement de cette symphonie des psaumes. C'est la version de l'Orchestre philharmonique de Munich qui est dirigée par Celibidache. Thank you. C'est avec la symphonie de psaumes de Stravinsky que se termine ce numéro de Tutti Quanti. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité.